Oui, c'est juste une question qu'on s'est aussi posée hier dans le groupe, qui était de savoir, puisque là, on a beaucoup d'implicites par rapport à l'unicité de la solution. Et certaines équations n'ont pas des solutions uniques, et l'écart augmente de nouveau pour en retrouver un plus loin. Et donc derrière, est-ce qu'on communique pas à l'élève un faux théorème qui dit qu'une fois qu'on a trouvé une solution, c'est bon ? Alors c'est vrai que dans le deuxième cas, il y en a une infinité, mais on n'a pas vu...
Non, on ne vous montre pas l'extrait vidéo, enfin, voilà, pour des raisons de choix, mais effectivement, il y a quand même une discussion qui se joue sur le problème numéro 1 de l'unicité de la solution. Et la classe se met d'accord pour dire que l'écart augmente. Donc là, déjà, on met en place la technique de l'écart, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas, puisqu'on trouve des valeurs différentes. Et la technique qui est associée à la fin du problème numéro 1, c'est d'étudier l'écart. Et on se met juste d'accord sur si l'écart augmente, on ne va pas retomber dessus. On ne va pas retomber sur le zéro.
Mais il peut retenir mieux après.
Mais on reste quand même, mais on reste quand même dans l'idée qu'on en est convaincu, mais on n'a pas encore la démonstration mathématique. Et il va falloir passer par les écritures littérales pour obtenir une démonstration. On est tous d'accord. On est simplement convaincu qu'on a trouvé une seule solution. Et l'enseignant met juste ça en valeur. On a trouvé une solution. Il semblerait que. On a un autre extrait où le bilan, c'est il semble que. Deux points. On est une seule solution pour. Mais faire vivre la nécessité de. Plus tard, mais voilà. Il faut aussi que les élèves avancent. Voilà, on a aussi cet enjeu de l'avancée didactique. C'est si on est tous convaincus, bon, très bien, et on bascule cette conviction sur le deuxième, tout d'un coup, on a plein de solutions. Donc la conviction va être l'objet de. La remise en cause de la conviction sur le premier va être quand même l'enjeu de la démonstration mathématique qui va arriver à la fin du problème 3, où là, on est carrément bloqué. On se doute qu'il y en a une, on ne sait pas trop où elle est, voilà.
C'est 4 septièmes à la solution du problème 3.
Oui, donc l'élément technologique, comme tu le dis, dans le premier problème, reste implicite. Mais justement, il va s'expliciter ensuite quand on va rencontrer la tâche problématique, où là, on est obligé de mettre en œuvre une technique, une nouvelle technique. Et cette nouvelle technique, il faut qu'on la justifie et qu'on la produise collectivement. Donc là, par contre, au problème numéro 3, on sera sûr, avec cette nouvelle technique qui va être légitimée dans la classe, qu'il n'y a qu'une seule solution. On n'aura plus besoin d'utiliser en acte le théorème des valeurs intermédiaires devant un tableau. On saura faire autrement. Et on saura qu'il n'y a qu'une seule solution dans ce cas et que l'on ne sait pas dans d'autres, etc. D'accord ?
J'ai une question par rapport à l'exercice 3, c'est au problème 3. C'est que sur le tableur, apparemment, ils ont testé des valeurs. Est-ce qu'ils peuvent trouver 4 septièmes ? Parce que, voilà, donc qu'est-ce qu'ils trouvent ou comment ça se discute là-dessus ?
Bon, on montrera la vidéo, mais avant même que d'utiliser le tableur, on a déjà un élève qui a une solution à 6 ou 7 décimales avec sa calculatrice. Et on va voir ce problème avec le tableur, on va s'en approcher, mais on n'aura pas le zéro.
Oui, on montre que le tableur ne donne pas la solution. Et donc, dans la classe, il y a une petite fille qui est au fond qui dit... Peut-être que c'est pas décimal.
Mais avant même d'essayer le tableur, elle le dit. Ouais. Elle dit peut-être que c'est fractionnaire. Et il y a le prof qui dit ben pourquoi pas. Mais on va rester sur les valeurs décimales parce que tester des fractions, personne s'y lance comme ça spontanément.
Je me pose une question pratique. Comment font Alice et Bertrand pour rentrer le 4 septième ? Comment ça marche ? Parce qu'il y a bien ça, mais... C'est un peu...
Non, mais là, par exemple, le prof a tout de suite balayé ça en disant, vous avez vu, c'est pas répétitif comme exercice. Donc, le prétexte, on est vraiment,
oui,
voilà.
Mais
on
c'est pas une situation non plus, concrètement, qui sera mettable en œuvre, quoi, ça.
Oui, oui, on est d'accord. Mais les élèves, très rapidement, rentrent dans l'idée qu'on a des maths quelque part. Et voilà.
Oui, bon, ils ont compris que c'était un jeu, là, bon. Et puis après, ils se lassent, parce qu'il y a encore Alice et Bertrand.
Oui, voilà,
après, on s'amuse avec ça, quoi, que c'est un prétexte pour...
On leur en fait 2 ans, du Alice et Bertrand, donc c'est pour vous dire.
Oui, j'aimerais connaître quel était le rôle de l'enseignant dans cette création collective de la technique de monter les tableaux et trouver l'écart.
Le rôle de l'enseignant, tu veux dire, pour l'étude du premier problème ? Pour ranger les écritures, alors tous les élèves n'ont pas l'idée hein, l'étude du premier problème à tracer un tableau et à ranger de manière croissante les valeurs dans un tableau. Donc les élèves ensuite, ce qui est demandé surtout, c'est qu'ils rangent, qu'ils organisent leur calcul et ils voient bien la nécessité d'organiser leur calcul. Mais sinon, Cela se fait peut-être uniquement que pour le troisième problème, finalement, d'abord de ranger, la nécessité de ranger les valeurs dans un tableau. Ce n'est pas une obligation d'injecter dans le milieu dans les ressources de la classe le rangement dans un tableau des valeurs, des résultats.
En fait,
mais ça se passe très fréquemment. Ils ont quand même l'habitude.
Parce que c'est la panique. Les élèves testent ce qui leur passe par la tête et puis donnent les réponses comme ça vient. Donc le prof dit, écoutez, là, c'est du désordre le plus complet. Donc il faudrait peut-être ordonner ça. Alors comment on fait pour ordonner les choses? On va mettre dans un tableau les valeurs que vous avez testées. Alors au début, elles sont uniquement positives. Et puis on met A, Alice, et B, Bertrand. Et l'idée de l'écart, elle vient parce que on voit l'évolution. C'est-à-dire que là, on met déjà un pied dans les fonctions, puisqu'on a la variation de l'image en fonction de l'antécédent, de la variable. Et donc, c'est eux qui voient que il y a des moments où ça se rapproche et des moments où ça s'éloigne. Donc, c'est plutôt quand ça va se rapprocher. Alors, comment on fait pour évaluer le rapprochement? C'est la différence, quoi. Bon, alors, on l'appelle écart, et puis voilà.
Donc, il y a toujours ce jeu de questions cruciales qui ont été pensées, on ne les a pas montrées. Mais là, c'est un jeu de questions cruciales entre l'enseignant et la classe qui va amener à créer l'ostensif tableau. C'est-à-dire, il faut qu'on organise nos trucs, organiser le tableau. Ça sort tout de suite, mais on les mettra pas dans les valeurs croissantes, donc on peut pas tirer de résultats pour savoir où aller. Donc on va les ordonner dans un certain ordre. Donc ça va venir des élèves, on peut mettre du plus petit au plus grand. Et puis on n'est plus très loin de zéro alors qu'on s'en éloigne. C'est un jeu de questions cruciales qui va faire émerger l'idée de s'intéresser à l'écart. Ça vient pas de l'enseignant de manière, mais... Et là, on a la troisième séance sur le problème 3. Donc il faut imaginer qu'il y a quand même déjà 2 heures de fête où les élèves ont testé, produit... Il y a une vidéo, on va vous les montrer au travail, où ils peuvent passer 20 minutes à tester des choses, il n'y a rien qui aboutit. Donc il faut accepter ce temps-là aussi. Donc, et c'est au moment de du regroupement collectif où des idées vont émerger et on va pouvoir les poser, quoi. Et c'est un élève ponctuellement, ce n'est pas la classe en entier qui pense aux fractions. C'est une élève dans la classe. Ce n'est pas la classe en entier qui pense à « c'est entre cet écart-là et cet écart-là ». C'est le prof qui reformule pour le distribuer l'information au reste du groupe, pour qu'il puisse s'en emparer. Puis il faut être convaincu, et donc on aura la démonstration. Mais c'est vraiment un travail collectif où c'est des petits points dans la classe, des îlots, qui font avancer le savoir mathématique. Et donc, du coup, après, le travail qui va être important, c'est l'évaluation du rapport aux élèves et le moment de travail de la technique, qu'on montre pas là parce qu'il est moins spectaculaire. Vous voir les élèves qui font des batteries d'exercices ou c'est le professeur qui va aller regarder ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont utilisé encore les C-erreurs, est-ce qu'ils sont déjà dans la méthode experte ou pas. Ça, c'est pas spectaculaire en vidéo, mais c'est un moment essentiel aussi du travail d'enseignant, de vérifier la conformité des élèves dans leur globalité à ce qui a été travaillé. Mais c'est une élaboration collective. Vraiment penser qu'on n'attend pas que chaque élève ait la super idée.
Oui, alors vous avez compris après comment on va continuer, parce que cette idée d'écart, elle nous permet de ne pas utiliser la balance, puisque la balance, c'est un acte, la compatibilité, tout élément irrégulier pour l'addition, hein. Mais ça, ça résulte de quoi? Ça résulte du fait que si A égale B, A moins B égale 0, donc il faut avoir fait des maths élémentaires pour l'injecter dans la classe. Et donc, on va passer à A de X moins B de X, on ne l'écrit pas comme ça, mais l'expression algébrique de Alice, l'expression algébrique de Bertrand, sont égales. À quelles conditions sont-elles égales? Si la différence est nulle, on vient de voir ça, on l'a testé, je ne sais pas combien de fois, avec le tableur.
Mais là, on
vous montre le document, d'accord?
Il fait 9 pages, ça va. Donc, vous voyez tous les enchaînements de questions cruciales et des moments qui sont attendus, donc le monde d'institutionnalisation, voilà. Tout est spécifié dans le document de manière assez précise. C'est le document qu'on mettra en accès sur le site avec nos diaporamas. Vous l'aurez. Non, tout début, peut-être. Pas la première page, quoi.
Non, mais là, ensuite, si tu veux, ça ne se voit pas. Voilà. Là, si tu as...
Bon, là, voilà, ça, c'est des extraits simples de ce qu'on peut faire. Voilà, donc là il y a une question cruciale qui apparaît. On constate que l'écart, la différence, diminue. Jusqu'à combien il diminue? À quoi sera égale la différence lorsqu'on aura trouvé la solution? Analyse. Et à après on a la synthèse. Donc on fait quand même travailler des raisonnements mathématiques assez forts en actes. Supposons le problème résolu, d'accord ? Et donc ben, le problème est résolu quand on a l'écart qui est nul. C'est-à-dire 11x plus 5 moins 4x plus 9 égale 0. Alors ça suppose qu'on a déjà su supprimer les parenthèses précédées du signe moins. Si on ne le sait pas, voilà une occasion de se poser la question. Et donc, hein, hier, alors je parle pour le groupe collège qui se posait cette question-là. Ah ben on tombe là-dessus, mais on ne sait pas faire. Alors là, ils savaient faire, bon, on avait enseigné ça avant. Mais si on ne sait pas faire, voilà une nouvelle question qui relance l'étude ailleurs. Il faut se débarrasser du moins devant la parenthèse. Comment on va s'y prendre? Bon, alors évidemment, après, ben, on enlève la parenthèse, on réduit, on ordonne, et puis après on tombe sur... On tombe... Non, tu peux remonter, s'il te plaît. Voilà, stop. On tombe sur 7x moins 4 égale 0. Ça, est-ce qu'on sait résoudre ce truc? Mais évidemment qu'on sait résoudre ce truc. Ça s'appelle la différence. Et la différence, elle est nulle quand deux nombres sont égaux. Donc ça veut dire que 7x égale 4. Et est-ce qu'on sait résoudre 7x égale 4? En principe, oui, parce que c'est le problème de sixième. En principe, je dis, parce qu'en réalité, il y a des écarts, là, pour le coup. Et donc, on trouve 4 septièmes. Et donc, on a une technique qui n'utilise pas la transposition ou le... Bon, j'ajoute la balance, là, les trucs hein, comme ça.
Je vais juste dire une chose. Il y a un travail, bon, qu'on ne vous montre pas là, mais qui est fait par l'enseignant, de mettre dans le milieu, puisque Yves nous en parlera demain de médias milieu, mais dans le milieu, c'est-à-dire connaissances disponibles pour les élèves. Donc il y a un travail qui est fait, là, depuis plusieurs jours en amont, de développement d'expression littérale, pour qu'on n'ait pas d'obstacle technique à la résolution de l'équation. On rend disponible comme connaissance, on rend présente comme connaissance pour les élèves un travail de transformation de programme de calcul en programme de calcul équivalent par des transformations liées au développement. Et donc le travail du signe moins a été fait ou pas fait, mais c'est une occasion de retravailler si jamais beaucoup d'élèves... Enfin, si jamais des élèves n'ont pas acquis la technique de transformation du moins devant une parenthèse. Donc c'est un choix en amont de dire les transformations d'écriture, c'est pas le bon terme, mais bon, c'est le terme qu'on utilise entre nous, est présent, est un geste habituel et routinier, donc voilà, pour les élèves, pour que la problématicité ne se joue pas sur écrire un programme de calcul ou le développer, mais se joue sur la résolution d'équations. Donc on rend routinier une technique pour en rendre une autre problématique.
Oui, et alors ce que l'on voit ici dans le déroulement, c'est que, bon, vous savez tous, professeurs de collège ou de lycée, que les élèves se trompent systématiquement entre la transposition et la division quand ils résolvent une équation jusqu'à un certain moment où après l'erreur disparaît. Mais enfin, très souvent à la fin du collège. Ici, on a, pour les élèves, on a chaque fois l'élément technologique qui va justifier l'étape suivante dans la technique de résolution d'équations. Puisque j'ai 11x plus 5 égale 4x plus 9, ça veut dire que ces nombres sont égaux, ces expressions sont égales. Dire que ces expressions sont égales, ça veut dire que leur différence est nulle. Élément technologique, c'est la définition de l'égalité, on peut la prendre comme ça. D'accord ? Bon, c'est le lien entre l'égalité et puis la différence. Bon. Ensuite, bon, je retire les parenthèses, je réduis. Bon, d'accord, pourquoi? Parce que c'est une expression trop complexe. J'arrive à 7x moins 4 égale 0, je retourne sur mon théorème dans le sens réciproque cette fois-ci, c'est-à-dire 7x égale 4, d'où x égale 4 septièmes. Bon, c'est le problème, c'est la définition de sixième. Alors, ce que font les profs qui récupèrent les élèves en troisième et qui ne sont pas passés par là, ils leur enseignent ça. Et ils leur enseignent ça pour résoudre les équations. Alors évidemment, après, quand on est routinisé, quand on n'a plus besoin de faire toutes ces étapes, on voit bien à un certain moment que l'on peut transposer les x d'un côté et les constantes de l'autre. Ça, après, c'est dans le travail de la technique, lorsqu'on a fait beaucoup d'exercices, qu'on va résoudre l'équation. Hein, voilà, on a, est-ce que ça serait pas plus simple après? Est-ce qu'on pourrait pas aller plus vite? C'est toujours le principe d'économie de l'énergie cognitive, hein, propre aux humains. Voilà, bon, alors Alors, quand on est dans la phase où on s'approprie la maîtrise de l'organisation mathématique, on peut toujours disposer des éléments, les élèves peuvent toujours disposer des éléments technologiques pour avancer pas à pas dans la technique, et puis après, ben on les oublie, hein, et on résout l'équation.
Donc la deuxième partie de ma question, c'est en partie répondu, c'est quand est-ce que apparaît la technique routinière, les techniques expertes classiques, enfin classiques, non, celle qui est, qu'utilisent les élèves, parce que je me dis, alors ma question avant c'était entre ces trois séances, est-ce qu'il y a un travail personnel de l'élève en lien avec ses activités?
Pas forcément, non, en fait, là.
Est-ce que ces heures se suivent? Est-ce que
les heures se suivent, et puis ils ont effectivement le travail de développement, puis ils ont un petit travail de géométrie, une correction de contrôle, enfin quelque chose de très courant dans, voilà, les vidéos complètes nous montrent là la séance numéro la troisième avec le problème 3, on voit une correction de contrôle avec du Thalès dedans. La séance d'avant, ben, il y avait des petits exercices de développement à corriger avant d'entamer le premier problème. Donc non, c'est pas du tout.
Alors moi j'ai eu un souci en essayant de faire un petit peu comme ça, c'est que quand on a voulu institutionnaliser les choses, j'avais donné des petits exercices simples à la maison de résolution d'équations, et il y a des élèves qui sont revenus en me disant, ah ben moi j'ai appris une autre technique bien plus simple, c'est le surveillant qui m'a montré, c'est mon frère, c'est voilà.
Ah oui, non, etc., mais etc. Ça c'est des choses qui, ouais, existent, et aussi ici, il n'y a pas, voilà, de, il y a pas de souci. Donc, mais si on travaille sur la justification. Il va falloir à un moment faire le lien entre ces deux techniques.
Voilà.
Donc ça, c'est, par contre, c'est proposé dans le document, mais c'est à la charge de l'enseignant de faire le lien et d'expliquer, bon, voilà, pourquoi ces deux techniques peuvent fonctionner, et est-ce qu'il n'y a pas une justification dans l'autre. C'est-à-dire l'idée de « je fais passer d'un côté », c'est ça, c'est « je fais passer d'un côté les X et de les nombres des... » Donc ça, elle existe, je pense qu'il ne faut pas qu'on se leurre, il faut attendre qu'elle vienne de l'extérieur, un parent, un grand frère, effectivement, qui va la proposer. Et on peut prendre en charge en classe... la prendre en charge et puis demander une justification qui n'arrivera pas de l'élève. Donc il va falloir faire le lien avec ce que nous, on sait qui est vrai mathématiquement et ce qui ne l'est pas. Mais c'est très simple. Si on ne sort pas de l'idée d'avoir la différence nulle est équivalente à les deux quantités sont égales, on va pouvoir le redémontrer. Donc c'est là, s'arrêter ici, je crois qu'on l'a dans le document.
Oui.
On l'a anticipé, voilà. Donc c'est un document a posteriori aussi, donc ça a été vécu. C'est un peu plus loin. Je ne sais plus où c'est.
Non, c'est dans le moment de...
Donc, ce qu'on peut faire vivre, c'est on prend les deux quantités et en fait, on va montrer que c'est équivalent à ce qu'il a été appris à l'extérieur. Voilà, c'est là.
C'est un peu plus loin.
Oui, voilà, non, d'accord.
C'est un peu...
Donc, et on dit, oui, ok, tu as le droit de le faire parce qu'en même temps, c'est la même chose que ce qu'on fait avec le même théorème derrière.
Et dernière chose, en troisième... certains élèves maîtrisent parfaitement ces techniques, et d'autres n'ont pas du tout compris et essayent de... Voilà, donc comment... on ne peut pas refaire ce travail en troisième parce qu'on laisse
si.
Si, on peut le faire...
C'est trois séances, ce n'est pas perdu. C'est vraiment une petite AER, donc ce n'est pas les PER tels... Enfin, on a un PER après là-dessus sur les équations, mais là, c'est vraiment en troisième, en deux, trois séances, ça peut être très bien repris, ça fait du bien à tout le monde. Ceux qui n'auraient pas vu une justification mathématique la font vivre, donc c'est pas mal. Et c'est pas du temps perdu par rapport aux équations après qu'on aura produit ou autre qu'il va falloir travailler. Et on pourra réutiliser, réinjecter cette technique-là de différence nulle pour les autres équations. Donc c'est pas perdu. Ça peut se faire en quatrième, des collègues la font en troisième aussi.
Oui, oui, c'est ce que je disais, hein, au Collège Marseille-Vert, quand les professeurs ont une classe de troisième qui n'est pas passée en quatrième par cela, avec des élèves qui sont en difficulté sur la résolution d'équations, ils refont... en deux, trois séances, cela est bon.
Il y aura toujours des élèves qui savent, qui font avancer, mais ça ne fait pas de mal. Voilà. Mais ce n'est pas une redite.
C'est peut-être un peu provocateur, mais pourquoi alors est-ce qu'on n'arriverait pas, au bout du compte, en phase d'institutionnalisation, à dire que quel que soit A différente 0 et B, moins B sur A est la solution unique de l'équation X plus B égale 0.
On peut aller jusque-là, institutionnalisation, si on veut. Mais là, du coup, comme les techniques qu'on a mis laborieusement en place, qui vont nous servir, nous, pour la suite, quand on découvrira d'autres types de tâches, enfin, ou des spécimens, je ne sais pas, résoudre une équation du second degré qui s'écrit, enfin, l'équation produit de troisième, on va pouvoir dire, mais on a appris à faire des choses sur une équation, est-ce que la technique qui est là ne peut pas nous aider ? Donc c'est dommage de la gommer dans l'institutionnalisation parce qu'elle va nous servir, nous.
Sauf que dans l'institutionnalisation des équations de second degré, on leur balance aussi les deux à la fin. On en oublie.
Ben c'est dommage parce qu'on va pouvoir travailler tous les polynômes après de la même façon. Donc nous, on veut faire vivre une technique qui est robuste et un vrai concept mathématique fort qui est ce théorème-là d'égalité de deux quantités si la différence est nulle. Enfin, définie, c'est pas un théorème, c'est une définition de la différence. Donc, et la définition de la différence nous semble primordiale parce qu'elle n'est pas acquise par énormément d'élèves. Donc la faire travailler sur les relatifs en cinquième, la faire travailler sur les équations en quatrième et sur les équations en troisième, c'est quand même lui donner la force légitime qu'elle est censée avoir comme savoir mathématique fort. C'est pas un savoir mathématique anodin.
Et ce que dit Farida là, ça tue le problème des révisions en organisant de nouvelles premières rencontres avec des notions qu'elle vient d'évoquer à l'occasion de nouvelles tâches problématiques qui permettent d'avancer dans le programme et dans le savoir. C'est-à-dire que ceux qui avaient raté, je ne sais pas, à x égale b sur a, ceux qui avaient raté a égale b si seulement si a moins b égale 0, ou la définition de la différence, et ben ils ont de nouvelles occasions, de nouvelles premières rencontres avec cette chose-là.
Et la différenciation telle qu'on nous la vend, l'hétérogénéité des classes, etc., c'est un outil de différenciation, et de gestion à différenciation et de la gestion de l'hétérogénéité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des élèves qui sont dans des temps d'apprentissage différents, mais le temps didactique leur permet d'avoir les occasions, s'ils se mettent à l'étude, d'avoir les occasions de se mettre au niveau de la classe. Donc c'est quand même un bon outil de garder des techniques comme ça viables ou de les tester sur plusieurs niveaux.
Oui, c'est ce que Serge appelle le temps des situations. Effectivement, on a de nouvelles situations qui donnent de nouvelles occasions de rencontrer un milieu et d'interagir avec le milieu, si on parle de théorie des situations, et d'avoir des rétroactions dont on va tenir compte et qui vont se transformer en connaissances, puis en savoir.
Ouf.
Je l'ai dit. Bon, voyez au passage qu'on est très proche, même si on se dispute, parce qu'il faut bien mettre un peu de piment de temps en temps dans nos relations avec Serge, mais qu'on est sur la même longueur d'onde. Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.